Bonjour, bonjour, bienvenue sur nos ondes locales ou en podcast pour une nouvelle chronique du passé. Et bonjour Rémi.
Bonjour Martine et à vous tous, auditeurs. En cette période estivale, nous allons nous promener à la campagne.
En effet, nous allons au cœur du bocage bressan pour évoquer ces fermes les plus anciennes, celles qui étaient surmontées d'une cheminée sarrasine.
Avant de découvrir cette curiosité ethnographique, nous nous accordons une pause musicale avec un quadrille bressan, au temps où l'on dansait avec des sabots de bois pour toutes les fêtes. Cette ère de folklore nous plonge dans le passé bressan et nous évoquons ces fermes anciennes. Comme partout, nos ancêtres utilisaient les matériaux disponibles pour construire leurs bâtiments.
La Bresse est un pays de plaine, favorisé pour l'élevage et de multiples cultures. Elle pouvait affronter les aléas du climat. Les bressans d'autrefois vivaient dans des fermes où était regroupé le cercle familial élargi et les activités paysannes au sens noble du terme.
Nous parlons de cercle familial élargi, une notion importante.
Sous l'Ancien Régime, donc avant la Révolution, on décomptait la population par feu, au sens de foyer. Ceci pour les impositions. La population avait intérêt à se regrouper familialement pour payer moins d'impôts. Ceci était valable pour l'ensemble du royaume.
Revenons à notre Bresse. Comment étaient bâties les fermes ?
Eh bien, avec les matériaux qu'ils avaient à leur disposition sur place, c'est-à-dire le bois et la terre. La Bresse comptait, et compte encore aujourd'hui, de nombreuses forêts et son sol est argileux, avec quand même quelques pierres ou galets. Les Bressans combinaient ces divers matériaux pour édifier leurs fermes. Ils assemblaient une ossature en bois sur de faibles fondations sur lesquelles était élevé un muret de pierre ou de briques, d'une hauteur de 20 à 30 cm, avec des espaces dégagés pour les portes. Ainsi, les murs étaient isolés de l'humidité du sol.
Avec quelques contraintes.
Eh bien oui, la largeur du bâtiment détermine la longueur des poutres qui supporteront le toit, ou inversement. En réalité, cette longueur des poutres n'est vraiment pas un problème, car les bois de Bresse sont des taillis souffutés et les chaînes s'élancent vers le ciel, avec souvent un tronc assez rectiligne. Ces chaînes, nombreuses en Bresse, sont aussi utiles à la fabrication de la charpente. Celle-ci soumise à des contraintes techniques à respecter.
Nous avons le sature, un ensemble harmonieux, assemblé par tenons, mortaises et chevilles de bois. C'est une première étape.
La seconde phase consistait à remplir les espaces de l'ossature par un assemblage de branches de bois et de la terre battue. Des éléments de bois de faible section sont taillés, placés verticalement et incrustés en bas et en haut. Des tiges sont ensuite tressées entre ces supports et ce treillage est recouvert de terre battue, plaquée avec soin et lissée. Ainsi, et réaliser ce qui est appelé le clayonnage.
Quel matériau est utilisé pour la couverture du toit ?
Il n'y a pas eu de règles immuables et les matériaux étaient choisis en fonction des ressources locales et des possibilités financières du bâtisseur, selon le moment. On a utilisé du chaume, c'est de la paille, des tuiles plates ou creuses, en terre cuite. Au fil du temps, les tuiles creuses se sont imposées.
Tous les bois étaient travaillés verts.
Oui, ceci pour faciliter l'écorçage et le façonnage des structures. Et il faut aussi que certains éléments soient suffisamment souples afin de réaliser le clayonnage. Et tout se rigidifie en séchant. Les bâtisses sont de proportions modestes, sur un plan initial rectangulaire, car ils laissent des possibilités d'agrandissements ultérieurs aux extrémités. Les sols sont en terre battue, ou recouverts de carreaux de terre cuite, qu'on appelle des carrons.
Tout cela représente beaucoup de savoir-faire. Y avait-il des artisans spécialisés ?
Oh, sans doute. Des équipes se sont spécialisées pour certaines tâches, mais une construction exigeait beaucoup de main-d'œuvre et les paysans apportaient leur aide, en dehors des temps agricoles imposés. Les éléments de terre cuite étaient produits dans les tuileries ou caronnières, nombreuses en Bresse. Les bâtiments, au moins ceux qui ont traversé les siècles, n'étaient pas spécialement bas.
Parlons du confort et du chauffage.
Les familles de la campagne vivaient dans un espace intérieur beaucoup plus resserré qu'aujourd'hui. On vivait à plusieurs générations, grands-parents, parents et enfants. Nous avons souligné l'importance de l'expression « feu ». Dans les fermes d'une certaine importance, les servantes avaient une pièce à part et les domestiques masculins dormaient à l'étable, dans un espace sommairement aménagé.
Dans ces fermes, il fallait cuire les aliments et chauffer la pièce à vivre, là où se regroupaient les gens après les travaux dans les champs et l'entretien des animaux.
Évoquons le temps des premiers hommes, puisque l'humanité n'est qu'une longue évolution. Les Celtes, pour nos contrées occidentales, installaient leur feu à l'intérieur, à même le sol et au centre de l'abri ou de la hutte. Ce système est appelé le chauffage au large, une expression que nous reprendrons à plusieurs reprises. Plus tard, lorsque les murs ont été montés avec de la pierre, les feux sont déplacés contre ceux-ci, avec de belles cheminées comme nous pouvons les voir dans les châteaux qui ont traversé les siècles.
La difficulté est que la Bresse n'avait pas et n'a pas de carrière de pierre.
Pour ces fermes, la Bresse a continué à construire avec du bois et de l'argile, même après avoir fabriqué des carrons, ces briques de terre cuite. Le chauffage au large a donc été maintenu. Pour mieux évacuer la fumée, on a élevé des hottes, toujours avec les matériaux du pays, le bois et la terre battue. Ces hottes s'appuyaient d'un côté sur un mur, de l'autre sur une poutre maîtresse qui traversait la pièce à vivre.
Nous sommes dans la pièce à vivre, appelée maison en Bresse. Et c'est là que s'organise la vie paysanne. Là étaient cuits les repas tout au long de l'année.
Cette pièce à vivre est divisée en deux parties plus ou moins d'égale surface. D'un côté, le feu central avec, de part et d'autre, des lits clos pour profiter de la chaleur. Un autre élément est indissociable de ce feu, un banc, l'arche-banc ou banc des ancêtres. C'est un élément solennel, car on y traitait les affaires de famille. Parfois, cet arche-banc comportait un coffret où l'on gardait les papiers officiels. Cet arche-banc n'est pas un meuble, mais un bien immobilier. Il est un élément du foyer.
Quittons cette partie feu ou cheminée pour passer de l'autre côté de la poutre maîtresse.
Eh bien, nous y trouvons la longue table de ferme pour prendre les repas avec, de part et d'autre, un banc. Souvent, le pain reposait dans un casier ajouré, placé sur la poutre maîtresse avec, à côté, des couverts ou autres ustensiles de cuisine. Mais c'est le maître de maison qui ordonnait le déroulement des repas.
La vie était un peu rustre, comme dans toutes les campagnes de France et d'ailleurs.
Sans être riches, les gens y vivaient sans souffrir de disette, et les maisons reflétaient cette situation. Elles étaient édifiées sur deux niveaux, le rez-de-chaussée pour l'habitation et les étables, l'étage pour les greniers nécessaires pour entreposer les récoltes. Les belles constructions datent des XVIIe et XVIIIe siècles.
Vu de l'extérieur, ces fermes se ressemblaient, plus ou moins, sauf sur un détail.
Ah oui, la mitre, c'est-à-dire la partie de la cheminée qui dépasse du toit. Ces mitres sont élevées en briques, recouvertes d'un enduit calcaire. Les plus courantes sont de type conique à coupole intérieure et de type carré à pyramide. Pour les premières, on passait du plan carré du sommet de la hotte à la forme octogonale, comme dans l'art roman. D'ailleurs, des historiens disent volontiers qu'elle s'inspirait des clochers de Saint-André de Bagée ou de celui de Saint-Philibert de Tournus, deux édifices de l'époque romane.
Elles se ressemblent sans être pareilles. Comment expliquer ces différences?
Dans toute société, tout propriétaire cherche à se différencier de son voisin, à montrer sa richesse ou sa position sociale, par fatuité ou pas. par orgueil ou seulement pour se faire plaisir, être différent, sans forfanterie, être chez soi en quelque sorte.
Ainsi s'élèvent des mitres à un ou deux étages, plus ou moins ouvragés, sur une hauteur de 3 à 5 mètres.
Aux deux types indiqués s'ajoute celui de la forme d'un reliquaire gothique et le dôme avec une lanterne terminale. Aujourd'hui, on appelle cheminée sarrasine lorsque sont associés les trois éléments constitutifs, le foyer chauffant au large, la hotte et la mitre. Elles étaient plus d'un millier. Elles datent d'avant la Révolution. Elles étaient surmontées d'une croix catholique métallique ou plus rarement en brique.
Il y a toujours des exceptions. Une mitre est surmontée d'un croissant, car l'histoire de ces cheminées sarrasines a beaucoup intrigué et elle reste une énigme.
On leur a trouvé des accents orientaux, en provenance peut-être d'Asie mineure. En réalité, le mot sarrasin est à prendre dans le sens d'étranger, étranger au pays. Mais d'où viennent-elles? Pourquoi ne sont-elles que sur l'aire géographique de l'ancienne cirerie de Bagé-le-Châtel? En outre, elles apparaissent peut-être après la disparition de celle-ci.
Cela fait beaucoup de suppositions.
Oui, certains ont pensé que ce sont des éléments de l'armée défaite à Poitiers par Charles Martel, qui serait venu s'installer là de part et d'autre de la Saône. Certains toponymes pourraient le laisser croire, mais ces cheminées sont inconnues de l'autre côté de la Saône. Personne n'a de certitude. Et autrefois, les chercheurs ne disposaient pas de tests génétiques pour déterminer véritablement l'origine d'une peuplade. Localement, certains habitants revendiquent cette originalité.
À défaut de trouver la vérité historique, où les touristes peuvent-ils découvrir ces cheminées sarrasines?
Plusieurs fermes sont ouvertes au public comme au Musée des Saveurs à Saint-Cyr-sur-Menton. La ferme de Courte, près de Saint-Trivier-de-Courte, à l'écomusée de Saint-Étienne-du-Bois, ou encore à la ferme du Souget à Morvel-en-Bresse, ou la ferme auberge de Montalibord à Vécourt. Les possibilités sont variées et nous invitons nos auditeurs à rechercher les renseignements sur les sites des offices de tourisme. Et bientôt, à lire l'article que publieront les Chroniques de Bresse sous le titre « Les cheminées sarrasines en Bresse ».
Nous pouvons nous quitter sur ces invitations.
Oui, et nous remercions Hortense qui est à la technique aujourd'hui. Nous écoutons la badinerie de Jean-Sébastien Bach par Patrick Sérékian. Et nous nous quittons et nous vous souhaitons un bel été à tous. Au revoir.